Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
Luc, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lavoie.
Écoute, Luc, c'était l'anniversaire particulier cette année. C'était le 50e du jugement Roe v. Wade. Et là, j'avais l'impression qu'on allait célébrer quelque chose qui n'était plus, puis personne ne savait vraiment sur quel pied danser. Ceux qui étaient pro-choix comme ceux qui étaient pro-vie, là.
Écoute, ça a donné lieu en fin de semaine à des choses effectivement étonnantes. Et pour la première fois, c'était le 50e, les 49 autres commémorations ou le fait qu'on soulignait qu'on était soit en colère ou qu'on reconnaissait cet acquis-là pour les femmes, en tout cas, qui le souhaitaient, on inverse la tendance carrément. Donc, cette année, on avait les pro-choix qui tentent désespérément de maintenir le recours à l'avortement là où il est encore possible. Puis également des moyens plus faciles. On parle de la pilule abortive, par exemple, la pilule du lendemain. Donc, on parle de faciliter puis de protéger ce droit-là parce que la Cour suprême a dit « on renvoie ça entre les mains des États ». Donc, il y a des États, on l'a vu, qui ont déjà légiféré pour protéger le droit à l'avortement. Du côté des pro-vie, ben, on s'attendait cette année. J'étais de ceux-là qui disaient, on va prendre le temps de souligner chez les activistes qui sont pro-vie, on va prendre le temps de souligner vraiment, pour eux, une victoire. Ça fait 50 ans qu'on lutte année après année, qu'on a utilisé toutes sortes de stratagèmes politiques et de stratagèmes légaux pour dire on tente de freiner le recours, l'accès à l'avortement si on ne peut pas l'empêcher. Je m'attendais donc à ce qu'on ait des réjouissances, à tout le moins qu'on commémore cet événement-là. On le fait, mais à peine. On est déjà rendu du côté des activistes. Là, je parle pas des politiciens ou des élus, je ne parle que des activistes. On est déjà rendu à l'étape suivante. Et quelle est l'étape suivante pour des activistes? Un, intervenir dans les États là où on autorise encore des avortements, même s'il y a des restrictions à ce droit à l'avortement. Donc, on veut intervenir là et mener le combat sur les terrains qui offre, un peu comme on le fait de notre côté de la frontière, un accès, disons, plus facile
ça,
à l'avortement.
Ils veulent intervenir État par État, là.
Voilà. Et sinon, ben, l'autre grand axe ou l'autre avenue qu'on va emprunter, c'est d'exercer des pressions sur les élus républicains pour dire maintenant ce qu'on vous demande, les élus au Congrès, les sénateurs et les représentants, c'est un projet de loi visant à interdire l'avortement partout dans les 50 États, donc sur le territoire américain. Et là, on lance finalement la balle aux élus républicains qui, depuis des années, on l'a vu avec M. Trump, on l'a vu avec, bien sûr, le Parti républicain au Sénat et à la Chambre, on a porté la cause des pro-vie pendant très, très longtemps. Et M. Trump a permis cette victoire des pro-vie en nommant trois juges très conservateurs à la Cour suprême. Les républicains, donc, je pense, s'attendaient eux aussi à dire on va bénéficier d'un retour favorable dans ce dossier-là. Voilà qu'on exerce des pressions supplémentaires. Et à voir les réactions depuis la fin de semaine, mais depuis les deux dernières semaines, il y a beaucoup d'élus républicains qui sont plutôt inconfortables avec cette nouvelle orientation qu'on donne à la lutte chez les pro-vie.
Oui, puis là, ça devient ingérable parce que si c'est un droit fédéral, ouais. Ben une fois, ça peut aller de ton bord, mais il pourrait arriver une majorité démocrate qui dise, ben maintenant que nous pouvons enfin voter une loi fédérale là-dessus, voilà. Nous allons nous voter une loi très permissive. Là-dessus, moi, je pense que, Luc, je vais t'entendre là-dessus, je pense que le lobby oui. pro-vie va finir par regretter le dernier jugement de la Cour suprême parce que c'est incroyablement complexe. Et peut-être que beaucoup de politiciens étaient heureux de faire campagne sur l'enjeu sans avoir à gérer l'enjeu.
Voilà, puis écoute, autant maintenant, on vient d'offrir carrément, là, parce que si on suit, on n'a pas beaucoup de perspectives sur cet enjeu-là, du moins depuis la décision, le jugement Dobbs, mais les démocrates en ont profité aux élections de mi-mandat. On a vu une mobilisation importante. Toi et moi, on sait que ce sont les républicains qui se mobilisent plus facilement habituellement aux élections de mi-mandat. Cette fois-là, il y a eu une mobilisation très grande et pas que de démocrates purs et durs ou de progressistes convaincus. On a vu beaucoup de femmes sortir pour aller enregistrer un vote et faire de l'avortement une question de l'urne. Si je suis un républicain à la Chambre et au Sénat, j'ai bien noté ça, ce mouvement de foule très, très important. Puis j'ai bien noté les sondages aussi qui disent, écoutez, il y a 61% des Américains, on s'entend pas là, sur ce qu'on veut exactement comme accès à l'avortement, mais il y a 61% des Américains qui sont favorables à une forme ou une autre de recours pour l'avortement. Le nombre de semaines, par exemple, ou l'encadrement, ben là, peut varier d'un individu à l'autre. Mais ils sont 61%.
Ouais.
Si j'ai pu mener des batailles, donc au nom des pro-vie pendant longtemps, Si j'enfourche ce cheval-là à nouveau, mais avec une nouvelle mouture de revendication, est-ce que je risque pas de perdre des majorités ou à tout le moins me condamner à perdre la Maison-Blanche? Parce que ce que ça a donné depuis le jugement Dobbs, c'est des États, dont des États conservateurs, le Kentucky, on parle pas de territoire progressiste, le Kansas non plus, ce sont des États qui ont voté dans les législatures d'États, des États républicains qui ont dit « on protège le droit à l'avortement ». Donc, on a une question très, très, très sensible. Et si on pouvait noyer le poisson en se disant habituellement aux élections « oui, il y a l'avortement, mais il y a beaucoup d'autres sujets », ben là, depuis 2022, on peut dire que il y a des gens qui votent en fonction de l'avortement. Et comme on mobilise les troupes, dimanche, on l'a très, très bien senti chez les pro-choix cette fois-là. Ils écoutaient les promesses de M. Biden ou encore en Floride, les promesses de Kamala Harris. C'est clair que les démocrates vont entretenir cette colère-là ou cette frustration-là de s'être fait retirer un droit qu'on avait gagné de haute lutte en 1973.
Ouais, j'ai l'impression que le lobby pro-vie doit se dire Oscar Wilde avait raison. Il y a une chose de pire que d'avoir ce qu'on demande. De pas avoir ce qu'on demande, c'est de l'avoir. Écoute, Luc.
C'est de l'avoir, voilà.
Ouais, là, on va se parler de quelque chose, puis les gens vont dire, ben non, vous en avez parlé déjà avant. Non, c'est pas une vieille nouvelle. Ouais. Biden, coudonc, il se laisse traîner partout. Il a encore trouvé des documents. C'est embarrassant est un mot faible. Là, ça va devenir véritablement... Est-ce que ça va devenir un problème politique encore plus gros pour lui ou en oublier un, en oublier deux, en oublier trois, c'est tout le même péché, là?
Ben, c'est-à-dire que théoriquement, c'est le même péché parce qu'on n'en a pas beaucoup plus sur comment se fait-il qu'il y avait ça avec lui puis qu'est-ce que ça contient officiellement. Pour le moment, c'est le supplice de la goutte. Mais quand tu dis c'est gênant, c'est même humiliant. Et ce que j'ai noté durant la fin de semaine et encore ce matin, ce sont maintenant des élus démocrates qui pointent Joe Biden. Politiquement, il est déjà handicapé par ça, M. Biden, parce que il était sur le point d'annoncer sa candidature pour 2024. C'est pas le bon moment d'annoncer cela. C'est pas le bon synchronisme. Il est en pleine controverse. On prend des raccourcis très faciles. Si on blâme Trump et qu'on a mis beaucoup l'accent sur ce qu'il avait fait avec ces documents-là, ça a beau jusqu'à maintenant être moins grave. Reste qu'il faut répondre à des questions. À un moment donné, on ne peut pas lui donner de passe gratuite en disant « c'est comme normal d'en oublier à Wilmington au Delaware, dans votre bureau en Pennsylvanie, c'est, ah, tu l'as dit, il en laisse traîner partout ». Donc, à un moment donné, il faut répondre à ces questions-là. Et moi, ce que je vois venir pour M. Biden, c'est qu'il vient, on l'avait dit déjà ça, il vient d'apporter de l'eau au moulin de toutes ces rumeurs ou de ces soupçons que laissent courir les républicains sur la réputation de la famille Biden. Et on est sur le point d'ouvrir des enquêtes sur la famille Biden. Il y a un républicain qui a dit, écoutez, enquêter sur la famille Biden, ça va être facile. C'est comme un ours blessé qu'on traque. Donc, ça veut dire, il y a des traces.
Y a des
on
traces
est capable
partout.
De relever tout ça. Ben voilà. Mais que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, il va se retrouver au cœur de choses auxquelles, idéalement, en campagne électorale, on voudrait pas être associé. Et j'ai déjà parlé de son fils, que ce soit des problèmes personnels, que ça ne le concerne que lui, son père est Joe Biden et ses deux oncles ont des pratiques en affaires en utilisant le nom de leur frère Joe Biden qui, au plan éthique, sont problématiques. Les gens aux États-Unis vont pas faire le ménage aux élections en disant il n'y a pas de règles d'éthique pour tous les politiciens à Washington. Les enfants des gens influents monnaient le nom de leurs parents. C'est vrai pour Mitch McConnell, par exemple, Madame Charles, qui était secrétaire au transport avant et qui sont un des couples les plus puissants. On fera pas dans la nuance, on fera pas dans la dentelle là-dedans. Donc, ça vient ajouter un élément de plus. M. Biden, donc, prête flanc aux critiques. Et je répète, moi, je veux qu'il réponde de façon transparente et claire à ça. S'il n'y a rien, ben disons-le qu'il n'y a rien, montrons patte blanche, on pourra peut-être plus aisément passer à autre chose. Mais pour l'instant, c'est particulièrement gênant. Et pour quelqu'un qui met de l'avant ses 40 années de service public, ça fait amateur longtemps.
Oui, puis là-dessus, sa réponse, avez-vous des regrets? Non. Je pense qu'il n'y aura pas le choix faire un grand truc là, à la 60 Minutes, par exemple. Et le pire de ces scandales-là, Luc, c'est des scandales où tu n'es jamais sûr que c'est fini. T'sais, quand tu as un scandale, ça a commencé ici, ça a fini là, etc. Là, à chaque jour, c'est des fois, j'ai l'impression que Biden se lève le matin en disant, j'ai-tu tous mes documents, là? Mais ça va nous amener, j'ai hâte de voir cette conversation-là arriver dans d'autres pays. T'sais, Justin Trudeau, ses documents, ils sont où? Quelles sont les règles? Est-ce que M. Legault, comment ça marche, ces choses-là, sans qu'il y ait nécessairement de malice, là?
On a, dans le monde occidental en général, une crise de confiance à l'égard des élus. Imagine qu'on commence à enquêter sur Hunter Biden, ça va nous mener en Ukraine éventuellement. À chaque fois qu'on va mettre le pied en Ukraine, on va dire, M. Biden, vous aviez pas dans les documents classés que vous avez oublié puis laissé traîner dans votre garage à côté de la Corvette, il y avait pas justement quelque chose sur l'Ukraine parce qu'on sait que ça concernait ce pays-là, entre autres. Donc, c'est vraiment, en anglais, on dit le catch 22. C'est peu importe ce qu'il va dire, il est un peu piégé par cette histoire-là. Et ça ne peut que favoriser, du moins sous cet angle-là, les Républicains en 2024. M. Biden, là, son équipe, il vient de changer de chef de cabinet, d'ailleurs, là, M. Klein, qui est un intime, est parti. Assurément, il faut avoir une stratégie. S'il prétend être candidat en 2024 et qu'il est sérieux, faut trouver une façon de calmer cette controverse-là. Sinon, on nourrit le moulin à rumeurs, puis en campagne électorale, Dieu sait où ça va nous mener.
Oui, alors, comme on dit à nos enfants, ramassez-vous. Vous voyez, maintenant, je vais avoir un exemple. Regardez, Biden est dans le trouble, là. Ramasse ta chambre. Bon.
Vous avez un ado à la maison, parlez-leur de Joe Biden.
Luc, la liberté, merci beaucoup. On s'en reparle.
Bonne fin de journée, Guillaume.